Nous sommes au téléphone avec Jacqueline Bazalgue, auteure du livre « Du Kabeku, du Quercy, au Rocamadour, Raopé ». Bonjour Jacqueline Bazalgue.
Bonjour monsieur, je suis ravie de devoir présenter cet ouvrage.
Vous êtes docteur en études romanes et habitante du village de Kouzou, c'est à 7 km de Rocamadour.
Voilà.
Et l'ouvrage est aussi préfacé par Serge Rigal, le président du conseil départemental du Lot.
Oui, c'est tout à fait exact. Et je dois dire que cet ouvrage est né d'une gestation qui a duré assez longtemps. Nous avions commencé avec mon époux à travailler sur ce sujet du Kabeku dans les années 1994, au moment où il y a eu une étude sur la création de l'AOC, et qui a été réalisée d'ailleurs en 1996. Et il avait débouché sur une conférence donnée à la Bastille du Murat le 23 février 1995. Et je dois dire que les gens avaient été étonnés par le fait qu'on puisse étudier le Kabeku et qu'on puisse parler des chèvres. Et nous-mêmes, nous avions remarqué depuis longtemps qu'il n'y avait pas grand-chose de fait. Et pourtant, on connaissait les remarques de Delpont, l'historien, en 1831. On avait remarqué qu'il se plaignait d'une prolifération de chèvres. Cela gênait considérablement les propriétaires de terres, puisque ces chèvres allaient brouter chez des gens. Alors, ça nous avait intrigués. On s'est dit, mais comment ça se fait? Il y a énormément de chèvres, et on n'entend jamais parler d'elles, sinon en mal, pour se plaindre de leur présence sur des propriétés qui ne sont pas les leurs. Mmh. Et on ne nous parle pas non plus de la quantité de fromage qui se fait. Alors on était un peu embêtés, on était là, on était entre deux chaises. Et puis un jour, nous avons eu la chance de tomber sur des chiffres divulgués en 1861 dans un journal lotois, le journal du Lot. Et alors, ce journal exprime la quantité de fromage produit. Donc, on est en 1861. On est 30 ans exactement après les propos de Delpont. Et donc, on apprend avec étonnement que 1 500 000 fromages sont créés chaque année, en fait, au moins en 1861. Et donc, à ce moment-là, nous avons décidé de continuer et d'enrichir notre collecte. Alors on s'est rendu compte que la chèvre, parce que j'avais travaillé aussi, je dois le dire, sur les femmes, justement dans mon doctorat, où j'étudiais la représentation des méridionaux dans le théâtre français, j'avais étudié la représentation de la femme, son rôle, sa langue, la langue qu'elle employait pour s'exprimer. Alors j'ai été assez intéressée lorsque j'ai remarqué sur des cartes postales anciennes que la femme est souvent accompagnée d'une chèvre.
D'accord.
Et il semblerait quand même que l'homme soit plutôt accompagné d'un chien. Alors je me suis dit que la chèvre, c'est vraiment la compagne de la femme, et j'ai voulu essayer de me renseigner sur ce sujet. Et ce que j'ai remarqué, c'est que donc la fabrication du fromage de chèvre fait partie du domaine des femmes, au même titre que la tenue du jardin ou l'élevage de la volaille. Alors c'est donc la femme qui s'occupe de la garde, de la traite et de la fabrication des fromages. Mais ce sont aussi des femmes qui, dans des boucheries de chevreaux, en assurent l'abattage. Et on se rend compte dans ce livre, d'ailleurs, il y a deux cartes postales représentant des abattages de chevreaux à Gramat. Mais ensuite, lorsque j'ai étendu mes travaux relatifs aux perceptions identitaires à l'image du combattant lotois lors de la guerre de 1914-1918, j'ai retrouvé les femmes et les chèvres. Ainsi, dans l'édition que j'ai réalisée pour les archives du Lot, des lettres de Marcelin Prosper-Floirac, j'avais remarqué avec quelle insistance ce fantassème, qui se trouvait alors sur le front en 1914, demandait à sa femme Joséphine de lui envoyer, bien entendu, des fromages de sa fabrication. Et je suis persuadée que de nombreux Quercinois ont demandé à leurs épouses de leur envoyer des fromages et qu'elles l'ont fait. Ils ont reçu des cabécous, des colis de cabécous et de, bien sûr, d'autres produits, de poulet ou de saucisses, sont arrivés sur le front. Donc, on remarque que depuis le début de leur élevage, ces chèvres ont offert aux hommes une aide alimentaire précieuse. Et donc, on a vu là, pendant la guerre de 14 à quel point ces fromages étaient appréciés, mais on a retrouvé ça dans le conflit de 1939-1945. On en parlait d'autant plus dans la presse qu'il n'exigeait pas de tickets, alors que tout était rationné, qu'il fallait se débrouiller pour trouver quelques bricoles améliorant le quotidien. C'est vrai qu'il n'était pas gros, le quotidien. Eh bien, il fallait trouver, là on trouvait des cabécous. Alors donc les chèvres étaient omniprésentes dans le paysage autrefois et dans la vie des hommes. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à Gabaudet, pendant ce conflit, pendant le conflit de 1939-1945, le 8 juillet 1944, lors du massacre des maquisards par les Allemands, eh bien, les chèvres étaient présentes. Donc, elles ont été assez souvent assimilées à la vache du pauvre. Elles ont été ignorées ou sous-estimées. Mais heureusement que ça existe, que ça existait, les vaches du pauvre, parce qu'elles ont rendu des services très, très importants. Elles ont permis à des familles pauvres de survivre, d'avoir du lait pour les nourrissons, d'avoir du lait pour des personnes âgées. Elles ont permis aussi de fabriquer des fromages. Et la chair de leurs chevreaux était appréciée aussi.
Oui, ça a évité la famine.
Donc elles ont rendu de grands services à la population. Elles ont permis à la population de rester sur place, alors que des gens très pauvres auraient pu partir. Ils auraient pu partir à des cases-villes, comme ça se faisait à l'époque, ou ailleurs. Mmh. Eh bien, ces populations n'ont pas fait fortune, certes. Elles ont survécu et elles doivent leur survie à ces chèvres. Donc, on se rend compte qu'elles ont apporté beaucoup sur le plan du commerce, quand même, quand on pense aux chiffres de 1961. Elles méritaient, pour tous les services qu'elles ont rendus, une étude approfondie, voilà, et un hommage en sorte.
Oui, voilà, le cabécou est devenu une richesse de notre terroir, du coup.
Oui, oui, ces cabécous ont toujours été appréciés. Ils ont porté des noms très divers. Au début, quand je regarde la presse du 19e siècle, ils portaient des termes assez courants. On parlait sur le marché de Figeac, mettons, de petits fromages, ailleurs de fromage de chèvre, ailleurs de fromage au lait de chèvre. On n'employait pas ce terme de rocamadour, d'autant que le rocamadour était un fromage au lait de brebis à l'époque.
D'accord.
Mais il se trouve quelque chose, il y a quelque chose qui s'est produit. En 1913, il y a eu un banquet en l'honneur de Poincaré. Et dans ce menu qui était vraiment très, très copieux et agréable, on note la présence de fromage de rocamadour. Donc, on est en 1913, fromage de rocamadour. En 1920, un projet de musée parle d'un compartiment de ce bâtiment qui doit être consacré au fromage dit de rocamadour. On garde cette idée. Et à partir de ce moment-là, j'ai noté que dans la presse, les appellations de ce fromage sur les marchés sont légèrement modifiées. Mmh. On trouve toujours, bien entendu, des fromages au lait de chèvre, des petits fromages, mais ce qu'on trouve à partir de 1923, semble-t-il, c'est le terme de fromage de chèvre de rocamadour. Donc, il y a un glissement qui se fait.
Oui.
Et en 1924, on retrouvera de nouveau les petits fromages dits de rocamadour. Donc, ce qu'on note, c'est l'évolution du lexique. Mais, ça c'est à l'écrit, mais la population était habituée à parler de cabécous Et on voit apparaître cette dénomination chez le chanoine Sol. Le chanoine Sol, lorsqu'il écrit, fait une allusion au fromage et alors il parle des cabécous. Donc on se rend compte et puis on verra dans cet ouvrage, je ne peux pas évoquer tout ça à l'instant, mais on verra quand même qu'il s'est passé des choses au niveau de cette appellation. Présent, bon, on a affaire à des rocamadours, on a affaire à vraiment un gros, gros commerce qui met le Lot en valeur et avec, je pense, des ventes très intéressantes et vraiment une grosse, grosse quantité de fromages produits. Voilà. Mais ces renseignements, eh bien, ils seront très, très bien expliqués à la fin du livre par des professionnels de rocamadour. Enfin, ce que j'en retiens, c'est qu'en 2021, 1357 tonnes de rocamadour ont été produites.
Oui, ça fait une sacrée masse.
Mais alors, nous n'avons pas oublié non plus dans cet ouvrage les aspects culturels de la chèvre.
C'est-à-dire ?
Parce qu'elle a énormément influencé les romanciers, les poètes. On a un poème sur les chevreaux. Il y a des plasticiens qui se sont intéressés. Un sculpteur qui a créé une très belle statue. Il s'appelle Niklos. Il a créé une très belle statue que l'on peut voir dans le parc Tassar à Cahors. Donc, il y a eu ce phénomène-là. On sait aussi que l'Ursa avait créé des boucs. Oui. Les tapisseries de l'Ursa sont consacrées à des boucs.
Oui, tout à fait.
Et donc, on retrouve la chèvre dans des champs. On retrouve la chèvre, par exemple, dans le champ du Bouillet, très connu. Mais dans des petits champs aussi pour les enfants ou autres. On la trouve à tous les niveaux. On trouve son rôle culturel bien au-delà de la chèvre de M. Seguin ou de Notre-Dame de Paris. On la trouve absolument partout. Et on sait qu'elle était présente dans les fermes, bien entendu, mais dans les rues de Cahors. En 1921, il y avait des chèvres dans les rues de Cahors, des personnes âgées qui les faisaient paître dans le centre. Voilà.
D'accord. Ah oui, je suis assez étonné.
Et oui, et nous, on a été aussi comme vous, exactement comme vous, on a été étonnés, et je dois dire très étonnés, parce que à partir de ces quelques observations, on nous disait la chèvre du pauvre. Alors quand même, on s'est dit, mais c'est bien que les pauvres aient eu le droit d'avoir une chèvre, mais on n'imaginait pas tout ce qu'on allait trouver. On n'imaginait pas qu'on allait trouver pendant la guerre de 100 ans dans le Lot, ce qu'on allait trouver au moment des repeuplements,
oui.
Ce qu'on allait trouver au XVIe siècle, aussi avec le chevreau pascal, et ensuite dans tous les siècles qui ont suivi, on en trouve au XVIIe, au XVIIIe. Ce qui nous a semblé curieux aussi, c'est l'ordonnance de Louis XIV au XVIIe siècle, un peu à l'encontre des chèvres qui attaquaient le bois. Or, il avait besoin de bois. Il avait besoin de bois mais pour ses bateaux de commerce, mais également pour la flotte de guerre. Vraiment, lui, il les a attaqués, les chèvres, un peu, en demandant qu'elles ne soient pas partout. Mais il s'en est suivi une sorte de je ne sais pas, certains ont pensé même qu'il fallait les exterminer. C'est allé jusque-là.
D'accord.
Mais il y avait, bien sûr, des gens comme Tessier, un dénommé Tessier, qui lui a demandé que l'on fasse preuve de modération. Il a demandé, bien sûr, que les propriétaires de chèvres fassent attention, qu'ils ne fassent pas paître leurs chèvres n'importe où et qu'elles n'allaient pas causer des dégâts. Mais lui, il tenait à ce que cette chèvre continue à vivre parce qu'elle représentait des choses trop intéressantes pour la population,
oui,
et notamment pour les pauvres. Donc on n'a pas vu cette extermination. Et d'ailleurs, on le remarque qu'elle n'a pas eu lieu, cette extermination, parce que quand on écoute les propos de Delpont, on se rend compte qu'en 1831, on se rend compte qu'il y a un beau développement. Et d'ailleurs, ce 19e siècle semble être un siècle favorable mais justement à l'expansion des chèvres et à la fabrication de cabécou, la fabrication dont on remarque l'importance en 1861 et dont je vous ai parlé. Voilà.
Oui, en fait, on pourrait peut-être même remonter jusqu'au Moyen-Âge, finalement, vu que les chèvres étaient présentes.
Oui, mais on peut remonter au Moyen-Âge. Alors là, on a quelques chiffres, on trouve quelques chiffres, c'est assez rare, hein, mais au moment où il y a eu le repeuplement, bien sûr, les seigneurs donnaient leurs terres à travailler à des preneurs, à des gens qui acceptaient de prendre ces terres. Mais il était normal que des preneurs fournissent de l'alimentation aux seigneurs aussi. Donc, ils étaient tenus, dans leurs veaux, de fournir du fromage. Alors, quelquefois, on voit quelques douzaines de fromages. Mais comme il s'agissait d'assemblements collectifs, parfois, on se trouve en face de chiffres qui sont très, très gros. À un moment donné, on voit qu'il faut fournir un demi-quintal de fromage. Mais combien de personnes doivent fournir ces fromages? Alors ça, tout n'est pas élucidé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu beaucoup d'études qui étaient faites, et on a du mal à savoir combien de bêtes il y avait à ce moment-là.
Alors moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'appelais ça le cabécou. Et maintenant, c'est le rocamadour et c'est AOP. Quand est-ce qu'est arrivée, du coup, la certification AOP du rocamadour?
Alors, la certification AOC, c'était en 96. L'AOP, je ne sais pas trop, il faudrait revoir. Il faudrait voir ça avec les producteurs, l'âge de texte des producteurs. Mais l'AOC, c'est donc 96. Mais à ce moment-là, ils ont choisi ce terme. Autrefois, on parlait de cabécou de rocamadour. Quand mon mari avait fait l'étude sur le cabécou de rocamadour, il avait bien spécifié que c'était la bonne dénomination, en fait, puisque le mot cabécou provient et fait sur une racine de la cabre, c'est la chèvre.
Oui, tout à fait.
Donc, on voyait le fromage de chèvre. Mais alors après, il y a eu un glissement, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce glissement, ça ne s'est pas fait d'un coup. On a eu le banquet de Poincaré avec ce mot de rocamadour qui arrive. Et puis, peu à peu, on voit le mot de rocamadour qui s'introduit en des endroits où il ne se trouvait pas. Là, par exemple, sur des foires, on n'employait pas ce terme de rocamadour. On marquait uniquement petit fromage. Mais là, on le voit apparaître. Et donc, il entre dans les mentalités à ce moment-là. Et c'est devenu un cabécou de rocamadour. Et après, ma foi, on a lâché le mot cabécou. Mais tout le monde n'a pas abandonné ce terme de cabécou. Il existe des producteurs qui produisent des cabécous.
Oui, tout à fait.
Il n'y a aucun souci, c'est du fromage de chèvre. Et ils sont excellents. Les rocamadours sont excellents et les cabécous aussi. Et ces producteurs ont gardé l'image de marque de la chèvre. Et voilà, et c'est le même fromage, mais il est certain que le rocamadour a des normes très précises. C'est une filière. Par les professionnels de la filière rocamadour, c'est précisé justement par le syndicat des producteurs de fromage de rocamadour à la fin de l'ouvrage. Là.
Il doit y avoir un cahier des charges pour...
Oui. Il y a un cahier des charges précis. Et donc, là, c'est clair. Cette appellation est très claire. Voilà.
D'accord. Après, personnellement, c'est vrai que moi, j'ai du mal à les appeler les rocamadours. J'appelle toujours ça les cabécous, parce que...
Et oui, nous aussi. Et bon, pour faire une moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, ce sont des cabécous de rocamadour.
Et voilà.
Mais ça, on arrive à concilier. Mais pour nous, ce sont des cabécous. C'est des petites productions des chèvres, voilà.
Et alors ce rocamadour ou ce cabécou de rocamadour, il est connu jusqu'où?
Au moins sur toute la France, c'est certain, puisqu'on le trouve partout. Hein. Quand vous voyagez, que vous allez, mettons, à Marseille ou autre, il y a des rocamadours.
Oui.
Qu'est-ce que ça devient à l'extérieur du pays? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, il me semble qu'en Belgique, on en trouverait.
Parce que c'est un fromage qui peut-être n'aimerait pas voyager trop loin, donc ça va rester sur les pays qui sont à côté du nôtre, finalement.
Peut-être bien.
Oui.
Et oui, parce que c'est vrai que pour les faire voyager, ce qu'on avait remarqué, on avait eu des archives d'un épicier de Couzou qui faisait le commerce, justement, de ce qu'on appelait à l'époque déjà un peu le rocamadour. donc, dans cette mouvance où le mot de Roucamadour apparaît, voilà. Eh bien, pour les faire voyager, il avait un peu de mal. Il avait un peu de mal. Et alors, il avait des clients partout. On a la liste de ses clients, et ils sont marqués, d'ailleurs, dans le livre. On sait qu'il en envoyait à Marseille, il en envoyait à Sète, il en envoyait à Toulouse. Mais quand il voulait les faire voyager, souvent, ils étaient pliés. On appelait ça des cabécous plégates. Ils étaient pliés, ils étaient enveloppés de feuilles, de vignes, de noyers ou d'orave même, mais ils étaient forces qui étaient enveloppés dans des feuilles d'orave. C'était peut-être un moyen un peu ficelé, donc ils étaient maintenus, et puis ensuite, bon, il fallait pas, ils étaient un peu secs déjà quand on les enveloppait. Oui. Donc c'était peut-être un moyen efficace
De garder l'humidité. Voyager, finalement, voilà. La feuille relâchait peut-être l'humidité sur le cabécou et permettait un voyage peut-être un peu plus
voilà,
long.
Voilà, exactement.
Alors le livre, vous l'avez écrit avec la collaboration de Gaston Bazalgue, donc c'est votre époux, qui est maître de conférences honoraire à l'Université de Montpellier.
Voilà, et d'ailleurs, mon époux, alors lui, ce qui l'a intéressé depuis toujours, c'est la toponymie. Et donc, quand on étudiait la toponymie, on a rencontré plein de choses. Il a étudié les noms de la pierre et les noms de lieux liés à la géographie, donc.
Oui, d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « À la découverte des noms des lieux du Quercy ».
On retrouve dans ce livre la part de Gaston Bazal liée, c'est le lexique lié au repeuplement du Quercy et à l'élevage. On retrouve le goût qu'il a pour ces noms de lieux. Là, mais d'ailleurs, on retrouve aussi les noms de la pierre et les noms de la géographie. On les trouve aussi dans ce livre. Alors ça, c'est son gros apport. Et ce qu'il a fait aussi, il avait réalisé ses enquêtes, parce qu'il y a une part d'occitan, il y a un peu d'occitan quand même dans ce texte. Il y a le lexique, il y a le lexique du cabécou, il y a le lexique de ses noms de lieux, bien sûr, mais il y a aussi des chansons. Et il y a des textes recueillis en occitan. Ça s'appelle des ethnotextes, en fait. Ce sont des textes que les femmes récitaient dans le pouget de Bardi lorsqu'elles se réunissaient ou ailleurs. Alors, il y avait des textes qui étaient connus et qui étaient un peu transformés, un peu modifiés, mais l'essentiel du texte était conservé. Donc, on retrouve ces ethnotextes. On les trouve dans ce livre. Il n'a pas oublié le Lot, que la langue occitane fait partie du Lot. C'est très important. Donc, il a tenu à marquer, à rappeler cet héritage linguistique. Quand il parle de la chèvre, d'ailleurs, la cabre, il donne les étymologies. Donc, on retrouve tout son travail et on retrouve son expérience des enquêtes de terrain. Parce que, bon, il n'est pas évident d'aller interroger ces personnes qui fabriquaient ces fromages. Là, j'ai une dame, j'ai la photo de Madame Haussel dans le livre. C'est moi qui l'ai prise, cette photo. Et alors, on allait acheter des fromages, des fois, un peu chez tout le monde, là, un peu comme ça. Et ces personnes que l'on rencontrait, on leur demandait chaque fois, comment faites-vous ? Et alors, c'est là qu'on avait le vocabulaire, on avait toute cette richesse du vocabulaire occitan qui ressortait. Et on a évité qu'elle ne se perde. Et ça, c'est le rôle de Gaston Bazalgue.
Auditeurs, auditrices, si vous voulez tout savoir sur le cabécou du Quercy jusqu'au Roucamadour à Opé. Donc c'est un livre de 96 pages en couleur, avec des illustrations par de nombreuses photographies, des cartes postales anciennes, des documents d'époque même, grâce à la collaboration du secrétaire de l'association des collectionneurs du Lot, Jean-Michel Rivière, et deux grands noms de la photographie. Il y a Jean-Louis Nespoulous et Pierre Lasven. Donc après, le livre peut se trouver sur Internet, sur le site www.edicos.com. www.edicos.fr. Je vous remercie, Jacqueline.
Et moi, je vous remercie beaucoup aussi. C'est un hommage, pour moi, c'est un hommage à la chèvre, à ces bêtes qui ont été quand même un peu dénigrées et laissées pour compte, voilà.
Et à l'époque. Finalement, le cabécou, il a été inventé par les femmes.
Et il semble bien. Il a été inventé par les femmes, encouragé très vivement par les hommes, certainement. Hein. Il y a eu une collaboration, mais ce sont les femmes qui le fabriquaient, voilà.
Je vous remercie.
Et moi, je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur.
Au revoir.